le journal, Laurence Thomas. Bonjour Laurence.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Taxi, auto-école, ambulance, opération escargot aux abords des grandes villes. Dormir chez l'habitant ou quand un ministre en campagne pour les européennes limite ses dépenses. De la prison au Parlement, les 5 parlementaires indépendantistes catalans en détention provisoire pourront participer à la session d'ouverture du Parlement. Game of Thrones tire à sa révérence. Ultime épisode de la série culte. Nous irons à New York auprès des fans à la fin de ce journal et sur France Inter qu'on ne s'inquiète pas. On ne spoil pas.
Divulgaché, selon le nouveau mot autorisé. L'invité d'Alexandra Ben Saïd à 7h50 et je vous le rappelle, Ginette Kolinka, survivante du camp de concentration d'Auschwitz-Birkenau. Elle publie Retour à Birkenau avec Marion Ruggeri. C'est aux éditions Grasset.
France Inter. Sur quel revenu 2018 allez-vous payer des impôts cette année? Le prélèvement à la source a tout changé et il vous reste seulement quelques jours pour terminer votre déclaration en ligne. Alors, certes, 2018 est une année blanche, vos revenus ne sont pas imposables, sauf les revenus dits exceptionnels. Mais pour les contribuables, la ligne est plutôt floue. Faustine Calmels.
C'est le cas pour Dominique, il a travaillé 40 ans pour la grande distribution à Rungis. Il est à la retraite depuis le début de l'année et se pose beaucoup de questions.
Comment et où déclarer l'indemnité de départ à la retraite et comment la lisser dans le temps?
Dominique a touché 30 000 euros, 6 mois de salaire, ce qui fait exploser son taux d'imposition.
Quand on reçoit la déclaration des revenus employeurs, c'est cumulé. Si je respecte simplement la somme que m'a communiqué mon employeur, c'était pas du tout la même façon de payer les impôts.
Pour éviter d'être dans le rouge, il peut lisser le montant de sa prime de départ sur 4 ans. Mais ce mécanisme d'étalement n'est pas applicable à tous les revenus exceptionnels. Et ils sont nombreux, détaille Frédéric Feller, consultant en droit fiscal.
Ça dépend de la catégorie salarié. Donc son salaire de base, par principe, il peut pas être exceptionnel. Mais s'il perçoit des primes, si c'est pas prévu au contrat par exemple, ce sera considéré comme exceptionnel. Tout ce qui est licence, départ à la retraite, c'est par principe exceptionnel. Les indépendants, en principe, on va essentiellement comparer par rapport aux revenus des années précédentes. C'est vrai que les indépendants, les revenus fonciers, il faut se creuser un petit peu plus la tête.
Autres revenus exceptionnels, les primes de déménagement, le paiement de jours mis sur un compte épargne-temps, les arriérés de loyer ou encore les intérêts de placement financier.
Et rassurez-vous, cette notion de revenu exceptionnel n'est valable que cette année. La déclaration sera beaucoup plus simple en 2020. Toulouse, Dijon, Strasbourg, Paris, attention, des embouteillages sont à prévoir ce matin autour des grandes agglomérations, des professions différentes, mais un point commun, le transport. Les uns dénoncent l'ubérisation de la profession, les autres sont échaudés par les pistes de réforme du permis de conduire et la réforme du financement des transports de santé. Sarah Tucherer, vous êtes en direct de la Porte d'Auteuil à Paris où 9 cortèges vont converger dans la matinée.
Oui, c'est ça. Des cortèges sont notamment prévus au départ des aéroports d'Orly et Roissy. Il y aura aussi des départs des différentes portes du périphérique parisien, porte de Clignancourt et porte d'Auteuil. Notamment, pour l'instant, c'est calme. Ici, porte d'Auteuil, le cortège doit partir plus tard. La mobilisation de ce matin regroupe 3 professions avec chacune ses revendications. Les taxis sont toujours inquiets de la concurrence avec les VTC et craignent que le gouvernement ne leur accorde des droits qui jusqu'ici leur étaient réservés, comme celui d'attendre le client en stationnant sur la chaussée. Pour les auto-écoles, c'est l'ambition du gouvernement de réduire le coût du permis qui crée des tensions. Les auto-écoles craignent une ubérisation de la profession. Enfin, une association d'ambulanciers se joint également au mouvement pour garder la main sur les transports sanitaires. Tous ces manifestants convergeront dans la matinée vers le centre de la capitale. Ils doivent stationner leur véhicule du côté du boulevard Raspail pour ensuite rallier à pied l'Assemblée nationale.
Sarah Tucherer en direct de la Porte d'Auteuil. Élection européenne J-6, la situation semble de plus en plus périlleuse pour La République En Marche. Selon tous les récents sondages, la liste de la majorité portée par Nathalie Loiseau est au coude à coude avec celle du Rassemblement National de Jordan Bardella. Alors il y a quelques jours, Emmanuel Macron a appelé ses ministres à multiplier leurs apparitions aux meetings et réunions publiques. Mais quels moyens ont-ils le droit d'utiliser? Qui paye ces déplacements? Karine Bécard a posé la question à François Durigy, le ministre de l'Environnement.
Nous nous déplaçons faisons, nous, les ministres, pour aller soutenir des candidats, pour faire des réunions avec les moyens de la liste En Marche. Elle a un budget de campagne et évidemment, tous les déplacements des ministres sont pris en charge par le budget de campagne. Aucun moyen de l'État n'est engagé, évidemment, dans cette campagne. C'est normal. Moi, je dors souvent chez les gens qui organisent les réunions. Dans quelques jours, chez un député de l'Hérault, c'est comme cela que nous faisons campagne sur le terrain. Et moi, je suis très heureux d'être un militant de l'Europe et de l'écologie dans cette campagne, au moins autant qu'un ministre.
L'affaire Vincent Lambert, devenue le symbole du débat sur la fin de vie en France, pourrait connaître son épilogue cette semaine. À partir d'aujourd'hui, les traitements de ce tétraplégique âgé de 42 ans peuvent à tout moment être arrêtés. L'ancien infirmier est en état végétatif depuis 11 ans maintenant et son médecin au CHU de Reims veut lancer le protocole. Arrêt de l'hydratation et de l'alimentation, sédation profonde et antidouleur. L'actualité judiciaire avec le deuxième round du procès des époux Balkany. Après une première semaine consacrée au seul délit de fraude fiscale, le procès reprend aujourd'hui pour 5 semaines, dédiées cette fois aux accusations de blanchiment et de corruption. Un procès à suivre sur franceinter.fr. Autre procès, c'est au tribunal de Fontainebleau. Une assistante maternelle est accusée d'avoir laissé seuls 2 enfants dont elle avait la garde pendant plusieurs heures à son domicile. Cela s'est produit en Seine-et-Marne, à Vernoux-la-Celle-sur-Seine, dans le sud du département. La nounou est accusée par 2 mères de famille. Thibaut Cavaillès a pu joindre l'une d'entre elles, Leslie, qui habite à la grande paroisse.
Quand elle en parle encore aujourd'hui, les sanglots montent. Leslie se dit que c'est un peu de sa faute à elle.
Je me sens coupable. Oui, j'aurais dû mieux voir qu'elle n'était pas si professionnelle que ça.
Pas si professionnelle. L'assistante maternelle qui gardait chez elle le fils de Leslie, Elio, de ses 5 à ses 9 mois. Le matin du 11 janvier dernier, Leslie est au travail, coup de fil de sa mère. Elle vient de voir la nounou d'Elio faire les soldes au centre commercial de Carré-Sénart. Sans Elio.
J'étais paniquée, j'étais en pleurs dans mon bureau.
Le calcul est vite fait, Carré-Sénart est à 45 km du domicile de la nounou où se trouvait finalement Elio. Les services de la protection infantile alertés le retrouveront seul dans la chambre.
On va dire au minimum c'est 3 heures où elle a laissé mon fils tout seul.
L'assistante maternelle mettra 3 semaines à avouer mais ne reconnaît toujours pas aujourd'hui qu'elle a laissé Elio mais aussi Nathan, guère plus grand, seul à plusieurs reprises selon Leslie qui a mené son enquête.
Elle a été vue à un centre commercial à Varennes-sur-Seine, donc c'est on va dire à 20 minutes de chez elle. Elle a été vue à Villiers-en-Bière, c'est à une trentaine de minutes de chez elle. Et bon, bah Carré-Sénart, c'est 45 minutes.
Depuis, Leslie a trouvé une nouvelle nounou pour Elio.
Oui, j'ai confiance.
Et espère que la justice empêchera son ancienne assistante maternelle d'exercer à nouveau cette profession.
Inter 7h37, c'est une nouvelle législature singulière, Laurence, qui va démarrer en Espagne.
Tout d'abord, pour la première fois, des représentants de Vox, le parti d'extrême droite, vont faire leur entrée au Parlement. Mais autre chose, plutôt insolite, 4 députés et un sénateur indépendantiste catalan, élus aux dernières élections du 28 avril, sont toujours en détention provisoire et ils vont pourtant assister à la session d'ouverture des 2 chambres. Ainsi en a décidé la Cour suprême espagnole. Les explications de Marie-Hélène Ballestero.
C'est une première en Espagne, ce qui explique l'intérêt suscité par ce scénario rocambolesque. Les 5 parlementaires indépendantistes catalans en détention provisoire arriveront donc tout droit de la prison madrilène de Soto del Real pour assister à la session d'ouverture des 2 chambres qui aura lieu demain. Mais dès ce matin, vers 10h, ils sont attendus au Parlement. 4 vont se rendre au Congrès des députés, dont l'ancien numéro 2 du gouvernement catalan, Oriol Junqueras. Et le 5e, l'ancien conseiller catalan des affaires étrangères, Raúl Romeva, est attendu au Sénat. Aujourd'hui, ils pourront retirer le certificat qui les habilite à entrer au Parlement. Et demain matin, ils devront prêter serment à tour de rôle, comme les autres parlementaires, ce qui veut dire qu'ils devront promettre ou jurer de respecter la Constitution espagnole. Tous les yeux seront rivés sur ces 5 parlementaires qui devront regagner leur cellule dès la fin de la session, ne pouvant participer ni à des réunions de travail, ni à des conférences de presse. Ils ne pourront pas non plus déjeuner avec leurs familles, qui seront installées dans la tribune des invités. Madrid, Marie-Hélène Ballestero, France Inter.
Qui de Daenerys, Jon Snow, Sansa ou Arya s'empare du trône de fer? Les Américains connaissent déjà l'élu puisque l'épisode final a déjà été diffusé aux États-Unis il y a quelques heures. Alors cris de joie, sanglots, scènes d'hystérie, applaudissements. Les fans de Game of Thrones, dont nous faisons partie, Nicolas, ont vécu passionnément jusqu'à la dernière seconde de la série culte qui s'est achevée après avoir cumulé les records d'audience 8 ans durant. Notre correspondant à New York, Loïc Loury, a assisté au dernier épisode dans un bar de New York.
80 minutes pour conclure la série de la décennie. 200 personnes environ sont présentes pour la projection de cet épisode 6, saison 8 de Game of Thrones. Des fans excités, anxieux et impatients d'en connaître le dénouement à l'image d'Oscar.
C'est une série épique. Je suis contrarié parce que c'est le dernier épisode. Jon Snow est génial. S'il n'essaye pas de devenir roi ou s'il se fait tuer, je vais devenir fou.
21h15, la lumière s'éteint. Ce 73e épisode, le tout dernier de la série, peut commencer. Après le générique, silence de cathédrale interrompu par quelques rires ou applaudissements, c'est la dernière messe des fans de la série après une saison jugée décevante. Dave, du coup, repart un peu amer.
Est-ce que j'ai l'impression d'avoir perdu mes parents ? Absolument pas. Mais je pense qu'une part de moi, peut-être, et puis non, ma vie ne va pas changer après la fin de la série. Surtout après cette fin décevante.
Des fans souvent déçus, mais déjà nostalgiques, comme Tony.
Je crois que j'aimerais toujours Game of Thrones. Quoi qu'il arrive, je vais revoir ce dernier épisode.
Un épisode et une série qui s'achève malgré tout sous les hurrahs. Les discussions promettent d'être agitées aujourd'hui devant la machine à café. New York, Loïc Laurie, France Inter.
Un dernier épisode à voir sur OCS.
Merci Laurence Thomas.